Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce dimanche de la miséricorde divine, je vous propose comme méditation, à partir de ces 2 phrases bibliques, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et puis, dans les Actes des Apôtres, la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur, qu'une seule âme. De là, nous pouvons découler ces 2 mots, « Unité et mission ». Unité et mission vont ensemble. L'unité se déploie dans la mission. La mission découle de l'unité de l'Église et la mission construit l'unité de l'Église. L'unité est tout d'abord un don de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3 personnes divines sont une, un seul Dieu qui se déploie en chacune des 3 personnes divines et toutes les 3 sont indissociables. Ils sont distincts, mais indissociables. Ils sont tous les 3 unis à une seule volonté divine. Il n'y a pas en eux un brin de désunion, d'imperfection dans leur unité. La division vient de Satan, l'unité vient de Dieu. Et donc c'est un don, l'unité, à implorer du Seigneur, de la Trinité. Nous sommes faits à son image, nous sommes faits pour être unis à l'image de la Trinité. Un don veut dire que nous nous mettons dans la disposition de le recevoir dans l'accueil contemplatif, priant et demandant à Dieu. Il est important de saisir cette première dimension de notre rapport vertical avec la Trinité. Nous avons été baptisés dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que nous vivions dans le corps du Christ de cette unité entre nous. Et c'est un don à recevoir, à implorer. Je dirais que, à l'opposé de cette unité que Dieu veut, c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, le Saint-Père avait l'expression de chrétien midonné, moi j'emploierais l'expression de chrétien coconné. Vous savez, on fait corps ensemble dans une bulle sphérique à tel point que personne d'autre peut y rentrer dedans. Et qu'est-ce qui ouvre ces bulles complètement fermées sur elles-mêmes? C'est d'abord la dimension de l'ouverture à Dieu, la transcendance, la verticalité de nos relations avec Dieu, en premier lieu et non pas en second. Je dirais que chaque réunion que nous avons en tant que chrétiens est appelé à commencer à se mettre sous le regard de l'unité de la Trinité dans la prière et à s'achever de cette manière. Jamais sans Dieu. De là découle notre unité. D'ailleurs, quand nous lisons notre passage des Actes des Apôtres, il nous éclaire sur l'unité des premières communautés chrétiennes. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain qui, dans les premiers temps chrétiens, était l'Eucharistie, et aux prières. Vous avez là quatre éléments que nous vivons dans les cinq vitamines: l'adoration, la fraternité, la formation et le service. Voilà, c'est la pause musique, merci. On peut même danser là-dessus. Voilà, et donc l'unité des chrétiens découle de ces quatre éléments, même des cinq, il faut ajouter l'évangélisation, puisque l'unité va vers la mission. L'unité ne peut pas être vécue qu'entre soi et entre Dieu, mais aussi tournée vers les autres. Sans cela, c'est un rapport avec Dieu et nous, mais qui n'est pas ouvert à ce que Dieu veut pour nous. Dans la lettre de Jean, il nous dit l'importance, je dirais, de l'obéissance dans la foi au Seigneur. Relisons ensemble ce passage. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. En effet, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » sans jamais se mettre à l'écoute de sa parole et chercher à la vivre. C'est un amour, je dirais, soporifique ou encore idéaliste. En fait, j'aime Dieu dans ma façon de le voir, mais je n'aime pas Dieu dans la manière dont Dieu se communique à moi. Et il a une parole qui nous communique à travers la Sainte Écriture et la tradition de l'Église. Vivre les commandements de Dieu, nous avons besoin tout d'abord du moteur intérieur pour cela, qui est l'Esprit Saint. C'est lui qui nous pousse à aller de l'avant pour vivre la parole du Seigneur. Et deuxièmement, en communauté chrétienne, en communion. Il n'existe pas de vie chrétienne d'isolée. C'est contradictoire avec le message du Christ. Nous sommes faits pour la communion dans un corps qui est l'Église. Il existe en effet des états de vie dans l'Église que sont les ermites, Tu as une vie de solitaire, mais pas d'isolé, c'est différent. Ils vivent en communion, soit avec des moines qui sont aussi, eux, ermites, et avec une règle de vie, soit en communion avec l'évêque. Ils ne sont pas isolés, ils sont solitaires, mais en communion. Voilà, nous pouvons donc regarder que la vie chrétienne est une communion avec Dieu dans la recherche ensemble de l'accomplissement de sa volonté, de ses commandements. Et de là découle l'esprit qui nous est donné et qui fait de nous un seul cœur et une seule âme. Un seul cœur et une seule âme ne veut pas dire uniformité. Union ne veut pas dire uniformité. L'union en Dieu implique qu'il y a la diversité, diversité des dons, des charismes, diversité des personnalités. Et ce qui fait l'union, c'est l'esprit d'amour qui nous est donné entre nous, où nous recherchons ensemble d'un seul cœur, dans un même esprit, la volonté de Dieu qui va se déployer d'une manière différente en chacun. C'est ce qui fait la richesse et la beauté du corps tout entier du Christ. Ainsi, la première communauté chrétienne tend à tout mettre en commun et le tout est redistribué en fonction des besoins de chacun, ce qui s'exprime aujourd'hui à travers, bien sûr, les deniers de l'Église et la quête. Je voulais vous aussi parler de ce qu'enseigne la doctrine sociale de l'Église sur la possession des biens terrestres. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. Et toujours il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent et de la misère du prochain. Selon l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, le chrétien est un administrateur des biens du Seigneur. Et Jésus nous parle dans l'Évangile de la fameuse parabole du gérant habile, dont Jésus lui donne de l'importance parce qu'il a été habile pour pouvoir prévoir la suite. Il était renvoyé, puis prévoit la suite pour trouver un nouveau patron. Et Jésus nous dit que lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons fidèles après dans les grandes. Fidèles dans les choses de la gestion des biens de ce monde, fidèles dans la gestion des biens éternels. Vous relisez les Actes des Apôtres, il y a la fameuse histoire d'Ananie, sa femme Séphora, qui avait promis de donner le bien à l'Église de la vente de leur terrain, et puis ils détournent une partie de l'argent, ils se mettent dans la poche, et le Seigneur les frappe de mort. Saint-Pierre, à cette révélation de l'Esprit Saint, on voit que le Seigneur voit tout. Et donc, celui qui cherche à entasser les biens de ce monde pour lui-même, comme dit un proverbe, on n'a jamais vu une morgue suivie du camion de la banque. Ou encore, Jésus parle dans sa parabole de celui qui entasse des richesses à travers son bonne année de grains, qu'il a eu une récolte fabuleuse, il va faire un grenier, pensant que dans l'avenir il va être tranquille. Dieu lui demande sa vie le soir même. Tout ce qu'il a cumulé sera pour les autres. Nous avons là un appel, justement, que les biens de ce monde sont pour tous. Il faut garder bien sûr ce qu'il nous faut, mais en vue du ciel. L'Église actuellement insiste beaucoup sur l'unité du genre humain. Et il y a le dicastère pour le développement humain intégral et la Commission vaticane du Covid-19 insiste pour l'annulation de la dette des pays africains. Ils disent que c'est une question de justice. Je vous lis le texte, c'était intéressant de l'entendre. Nous ne pouvons donc pas sortir de cette crise qui est à la fois sanitaire, économique, sociale, politique et culturelle sans alléger le poids de la dette. Il s'agit d'une question de justice intergénérationnelle, car nous ne pouvons pas faire payer à nos enfants et aux générations futures tous les effets de nos erreurs et de justice spirituelle. Nous ne pouvons pas non plus oublier la dette écologique des grands, qui sont les premiers responsables du changement climatique dont le fardeau incombe toutefois en grande partie aux nations les plus pauvres comme ceux d'Afrique. On sait que l'Amérique achète des droits de pollution aux Africains. Le pape fait écho à cette demande le 7 avril dernier, où il a été demandé qu'il s'exprime au sommité de la finance mondiale lors de l'assemblée du FMI de la Banque mondiale. Il plaide pour un plan de relance mondial axé sur le bien commun universel et tourné vers les plus faibles. Il parle concrètement de l'allègement de la dette envers les pays pauvres, le calcul de la dette écologique des pays du Nord à ceux du Sud, la délégation aux nations plus pauvres d'une part effective des prises de décision. Pourquoi est-ce qu'il y aurait que le G20 qui décide pour le monde ? La facilitation de leur accès au marché international, ainsi que la solidarité vaccinale. Frères et sœurs, il s'agit de comprendre que nous sommes dans un écosystème où tout est relié ensemble. Je dirais que lorsque nous avions parlé des 5 vitamines, nous avions cette image du fameux tonneau où les lattes représentent les vitamines. Et lorsqu'il y a une latte qui est basse, on ne peut pas remplir au-delà de cette basse latte. Ce n'est pas possible, ça ne va pas plus haut. Et donc, de se préoccuper des plus pauvres, c'est relever le niveau de tous. Saint Vincent de Paul, dans son époque, avait constaté que lorsque un seuil de la misère est dépassé, il n'est plus possible de développer la vertu. Je me souviens d'un jeune qui avait vécu dans les favelas à Rio, avait rencontré une femme qui se prostituait. Et il lui dit, mais pourquoi vous ne suivez pas les commandements de Dieu, vous êtes chrétienne. Elle lui dit, mais je n'ai pas d'autre solution que pour nourrir mes enfants. Dans ces exemples qui nous sont donnés par l'Église de situations concrètes, eh bien recherchons l'unité chrétienne et humaine en Dieu et dans l'obligation d'un engagement missionnaire. Se préoccuper du prochain dans les biens matériels et spirituels et devant ensemble, cela fait partie de l'intégralité de notre personne humaine. Jésus donc apparaît à ses disciples et les envoie en mission pour qu'ils soient témoins de sa résurrection et que le monde en bénéficie. Bienheureuse Vierge Marie, aide-nous à vivre unis autour de la foi en Jésus ressuscité et annoncé. Amen.